mieux vaut un petit effort de préparation qu'un grand effort de réparation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'effort que tu vas mettre dans ta préparation et dans ton ciblage, bah derrière, en fait, les résultats qui vont en découler, ils vont être ultra pertinents. Alors que si tu mets pas de temps dans ton ciblage en amont, bah en fait, tu vas envoyer des emails à des personnes qui seront pas du tout concernées et tu vas un peu, comment dire, détruire la réputation de ton entreprise. On en reçoit tous, hein. On en reçoit tous des emails ou des LinkedIn. Moi, je reçois même comment dire, des messages LinkedIn en me disant qu'ils font du ciblage et de la base de données.
Bienvenue sur Vendu, le podcast pour booster vos ventes. Ici, on parle de prospection, de vente, de closing, de relations clients, de management, mais aussi de mindset. C'est 100% concret. Je suis Laetitia Fall et je vous embarque dans une nouvelle discussion pour rejoindre le top 1% des meilleurs commerciaux. C'est votre dose de culture sales. Bonne écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Vendu. Aujourd'hui, je suis avec Anash Chakri, qui est cofondateur de Leadpanda. On parlera de cette boîte pas mal pendant ce podcast. Salut Anas, comment tu vas?
Écoute, ça va super Laetitia. Merci de m'avoir invité à ton podcast. J'écoute pas mal les épisodes que tu sors, donc très content d'être là.
Eh ben, trop cool, merci d'avoir accepté. Aujourd'hui, en fait, j'avais envie de t'inviter parce qu'on va parler de segmentation. Finalement, il y a peu de choses en fait sur le sujet. On parle beaucoup de l'après, de comme des approches, de comment on doit faire du cold call, comment on doit faire du cold email, comment on doit démarcher sur LinkedIn. Mais toute la phase d'avant qui est primordiale pour avoir des résultats, on n'en parle pas souvent. Moi, je vois en fait effectivement que parfois, ce n'est pas la manière dont on approche les gens qui ne vont pas, mais c'est qui on a ciblé. Et donc, l'objectif, c'est qu'on parle notamment de ça aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais que tu te présentes pour tous ceux qui ne te connaissent pas.
Yes, carrément. Bah, écoute, pas de souci pour parler du sujet du ciblage. C'est vraiment le sujet cœur de Leadpanda, donc avec grand plaisir. Pour ma petite présentation, moi j'ai toujours été commercial, business developer. J'ai commencé business developer chez un grand groupe qui s'appelle Dalkia, groupe EDF, où j'étais en fait commercial itinérant et j'allais justement faire de la prospection terrain. Donc ça existe encore, faire de la prospection terrain auprès des pharmacies, des biocoop, etc., des GMS. Et donc voilà, j'ai fait 2 ans là-bas. Ensuite, je suis allé dans une autre entreprise où pour le coup, c'était un cabinet de conseil, une ESN, où on s'adressait vraiment à des dirigeants type C-level dans des grands groupes, des DRH, des DAF, etc. Et j'étais business manager dans ce cabinet. La particularité, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de commerciaux dans ce cabinet de conseil, comme dans la plupart des cabinets. Et j'ai dû justement développer une stratégie de prospection qui était efficace pour justement générer du lead. Donc ça, pour le coup, ouais, c'était ma grosse partie chez Altea. Je suis arrivé en tant que premier commercial. Et en fait, comment dire, quand ça découle à Leadpanda, en fait, on avait 2 campagnes de prospection, un sur des lead éditeurs. Donc, en gros, on avait des partenaires, tu vois, des partenaires, donc des éditeurs logiciels avec qui on se rencontrait souvent. Et ils nous disaient, en fait, Anas, on a un lead là qui peut être intéressant pour vous dans une phase de synergie, justement pour les contacter, etc. Donc, en fait, on avait du contexte sur une entreprise, on connaissait la bonne personne et on savait qu'il y avait un projet. Et quand on l'appelait, il y avait carrément un taux de transformation qui était délirant, de l'ordre de plus de 50%. Donc ça, c'était une campagne qu'on avait. Et la deuxième campagne, c'était une campagne un peu plus grand compte. Là, pour le coup, en fait, il fallait savoir sur les 40 grands comptes de la région, qu'est-ce qui se passait chez eux sans pour autant avoir de contexte. Inutile de dire que, tu vois, sur la deuxième campagne, le taux de transfo était largement en dessous des 20% ou même des 10%, quoi. Donc, je me suis dit à partir de ce moment-là, comment arriver à faire en sorte d'avoir une segmentation, un ciblage ultra précis en sachant dans une entreprise si elle a le projet de mettre en place un nouvel outil, etc. Et donc, c'est à partir de là que j'ai mené cette réflexion-là de ciblage. Donc, je me suis associé avec une personne et on a créé Leadpanda. On en parlera un peu plus, mais voilà globalement sur mon parcours commercial, business developer, business manager. Voilà, ouais.
Du coup, t'as un profil extrêmement, très sales. Ce qui est cool, c'est que t'as créé du coup une boîte sur cette base-là, sur la base de tes propres problèmes que t'as pu identifier. Du coup, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Un des sujets, en fait, quand tu fais de la prospection, c'est évidemment de cibler de cibler les bons prospects. Généralement, on a toujours des gens qui vont être trop larges, etc. C'est quoi les questions qu'il faut se poser aujourd'hui pour pouvoir bien cibler tes prospects?
Ouais, c'est super pertinent. Je rencontre beaucoup d'entreprises qui me disent, en fait, nous, on n'a pas forcément de cible de prédilection. Nous, notre produit ou notre service, il s'adapte à toutes les entreprises de France. Quand ça commence comme ça commence très, très mal. Et moi, j'ai une grimace. Je fais cette grimace-là. Donc, les bonnes questions à se poser, déjà, il y a deux cas. C'est soit, un, on est en phase de go-to-market et on n'a pas forcément de clients. Okay? Et la phase 2, c'est le deuxième scénario, on va dire, c'est on a des clients, mais on veut acquérir une autre type de clientèle ou on veut avoir un nouveau produit, on veut lancer un nouveau produit sur le marché. Donc, il y a deux scénarios et donc une manière de prendre les choses qui sont un peu différentes. Déjà, les bonnes questions à se poser, c'est quoi ta proposition de valeur? C'est vrai que ça fait un peu bateau, mais il faut revenir dessus. C'est quoi ta proposition de valeur? Ça, c'est la première question à se poser. Deux, c'est qui a le plus besoin de toi aujourd'hui? Parmi les services, les produits que tu vends, qui est la personne, qui est l'entreprise qui a le plus besoin de toi aujourd'hui? À qui tu réponds le plus à leurs problématiques? OK? Et ensuite, une fois qu'on s'est posé ces questions vraiment de fond, bah en fait, on peut se poser aussi des questions de se dire, qui peut s'offrir ta prestation? Qui peut s'offrir ton produit ou ton service aujourd'hui? Si tu as un panier moyen de 5 000 euros, tu n'auras pas la même cible que si tu as un panier moyen de 50 000 balles. Donc du coup, qui est-ce qui peut s'offrir ta prestation aujourd'hui? Okay. Après, dans une logique de quick win, nous, quand on fait du ciblage chirurgical, on veut avoir du quick win ultra rapidement. On veut qu'à chaque appel, la personne se dise, OK, vous m'appelez et c'est ma priorité du moment. Et
Ok,
donc,
on
dans
va
une
revenir
logique de...
là-dessus, justement.
Ouais.
Ok, on va
Ouais, ça...
revenir là-dessus sur cette partie-là, mais un peu avant, j'aimerais, parce que tu dis au départ, voilà, il faut en fait revenir sur la proposition de valeur. Sauf que je vais prendre des exemples assez concrets de boîtes, pour le coup, que j'ai accompagnées, etc., où la proposition de valeur, elle permet de répondre à un certain nombre de boîtes vraiment très larges, tu vois. Effectivement, on n'est pas dans la caricature de « je m'adresse à toutes les boîtes de France », mais si je te donne un exemple assez concret, c'est « je vais m'adresser à toutes les boîtes qui recrutent. OK? Toutes les boîtes recrutent. Alors, d'accord, tu vas rajouter un truc, toutes les boîtes qui recrutent des profils X ou bien un volume important de profils. Mais du coup, tu peux te retrouver avec une liste hyper large. Donc, ça, c'est la première question, c'est comment tu fais le choix? Après, je reviendrai justement sur l'histoire de Quick Win.
Je sais que c'est un peu compliqué pour certains entrepreneurs de faire un choix ultra ciblé parce qu'on se dit que son produit ou son service peut s'adresser à une cible qui est assez large. Mais la logique là-dedans, c'est vraiment d'avoir un ciblage qui est chirurgical pour derrière pouvoir personnaliser sa prospection parce que on le sait tous. La prospection, à certains moments, ça ne fonctionne plus. Quand on envoie des campagnes d'email, tu vois, par exemple, moi, j'ai des clients qui me disent, en fait, j'envoie 1 000 emails par semaine. 1 000 emails par semaine. Donc,
Énorme.
c'est énorme. C'est énorme. Et donc, tu vois, ça fait 4 000 emails par mois. Et en fait, la cible, elle est beaucoup trop large. Donc, du
Ils ont
coup,
quoi comme résultat? Ils ont des résultats?
bah, ils ont même pas du 1%. Et ils me parlent de 1%, c'est du taux de retour. Donc ça veut dire les retours qu'ils soient positifs ou négatifs, ils comptent les 1% là-dedans.
Waouh. Ok,
Tu
je
vois?
comprends mieux pourquoi en fait, pourquoi personne n'a pu répondre aux emails, mais ouais, ok.
Exactement, ouais. Et donc, ta question est ultra pertinente et nous, on efforce d'éduquer nos clients sur, OK, il faut vraiment arriver à cibler des prospects de manière chirurgicale et de se dire, si on prend ton exemple, cabinet de recrutement, on a eu un cabinet de recrutement aussi pareil. Le mec, on lui a posé la question, on lui a dit, mais quels sont les profils que tu vas recruter le plus là où tu as une plus grosse valeur ajoutée? Ah, bah moi, je recrute des profils de type commerciaux. OK. Parmi les commerciaux, est-ce que tu vas recruter des juniors, des seniors? Quel est le profil de type commercial que tu vas recruter? Ah, bah moi, je recrute plutôt des profils seniors parce que, voilà, ils ont un bon packaging, etc. OK. Et parmi les entreprises qui vont recruter des entreprises seniors, avec quel type d'entreprise tu as travaillé avant? Ah bah, j'ai travaillé avec des cabinets de conseil, j'ai travaillé avec de l'industrie, etc. Donc, on a trois secteurs d'activité. On a un profil de commerciaux qui va recruter. Et en fait, à travers les questions qu'on va poser, bah derrière, on va avoir une segmentation beaucoup plus précise, beaucoup plus affinée et avoir un
Il a
discours
éliminé
beaucoup
les
plus
autres.
personnalisé derrière. Tu vois? Mais ça nécessite de se dire en tant qu'entrepreneur que je vais passer à côté d'opportunités. OK. Je vais passer à côté de personnes. Mais par contre, si je me focalise sur une cible en particulière, je vais la poncer au maximum et je vais avoir un discours qui est ultra personnalisé derrière. Donc,
Nickel.
on peut espérer avoir plus de 1% de taux transfo sur ce type de...
J'espère. Mais ok, du coup, t'as... Alors, super, en plus d'avoir pris, d'avoir répondu directement avec l'exemple. Tu parlais de Quick Win tout à l'heure. Alors, je suis complètement en phase avec toi. Par contre, la problématique que tu peux avoir sur cette partie Quick Win, c'est d'avoir suffisamment de ce qu'on appelle d'intent data, de voir en fait les intentions d'achat pour pouvoir te dire, bah, rapidement, ça va coller. Quand je vais appeler la personne ou lui envoyer un email, je vais lui dire, voilà, je règle telle problématique je fais en faisant ça. Est-ce que vous avez envie qu'on échange, qu'on partage, etc. Que la personne dise, OK, c'est mon sujet maintenant. Pour toutes les boîtes, c'est pas forcément évident d'avoir justement ce qu'on appelle cette intent data. Et donc, il y a des moments où parfois, je me pose la question, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut appliquer tout le temps? Ou est-ce qu'on est au tout début de ce process et que du coup, bah voilà, parfois c'est des buzzwords qui sortent comme ça? Ou est-ce que, voilà, toi, t'arrives vraiment pour pas mal d'industries à aller choper des intentions d'achat et pouvoir, du coup, affiner ta liste de prospection?
Ok. Donc là, la question, c'est de savoir, est-ce que ça fonctionne à tous les coups?
Ouais. C'est ça, okay. Si tu veux. Ouais. Oui, parce que par exemple, le recrutement, pour peut-être sur les études de terrain, le recrutement, moi, pour ceux qui me connaissent, je commercialise beaucoup de boîtes, beaucoup de produits de recrutement. Du coup, là, c'est assez simple. Je vais aller regarder si les boîtes recrutent. C'est une intention d'achat. Par contre, c'est pas arrivé dernièrement d'accompagner une boîte sur complètement autre chose. Et là, en fait, finalement, t'as rien sauf, effectivement, faire le process dont tu as parlé tout à l'heure, de te poser suffisamment de questions pour éliminer des gens et avoir une cible bien resserrée. Mais quand tu fais le cold call, tu te rends compte que les gens disent « Oui, ça pourrait être un sujet, mais ça n'est pas tout de suite. » Donc, tu n'as pas cette idée de quick win. C'était juste sur ça que je voulais savoir si ça marchait sur toutes les industries ou pas.
Super intéressant. Là, tu as décrit le système d'intent data, donc en français, les signaux d'affaires qui nous permettent de détecter s'il y a un potentiel intérêt envers la solution qu'on va proposer. Okay, donc, si je suis un cabinet de recrutement, je vais aller voir des entreprises qui recrutent actuellement un profil. Comme ça, ils peuvent potentiellement faire appel à moi pour justement recruter ce profil-là. Okay, on a pris le cas pour un cabinet de recrutement, ça peut être pour d'autres types d'entreprises. On peut cibler des intent data qui sont ultra pertinentes. Ta question, c'est de savoir, est-ce que ça fonctionne à tous les coups? Il y a deux stratégies. Il y a la stratégie ABM, donc Account-Based Marketing, où là, pour le coup, c'est vraiment la stratégie qu'on va suivre dans notre process de ciblage. Et deux, il y a la stratégie où, en fait, par exemple, si on prend le même cas du cabinet de recrutement, c'est d'aller voir toutes les entreprises qui vont recruter un profil commercial, peu importe du secteur d'activité de l'entreprise. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment une stratégie intent data pure. Okay ? Nous, on va plutôt partir de la stratégie ABM, de se poser les bonnes questions en amont, de se dire, OK, c'est quoi les bonnes entreprises pour lesquelles il y aurait un fit d'un point de vue humain, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue, prestation. Donc, ça veut dire avec ton panier moyen qui serait capable de se l'offrir, mais également avec qui tu aurais eu déjà des clients avec une belle étude de cas. Donc, on va partir vraiment d'une stratégie où, un, on part des bonnes entreprises et deux, on enrichit sur des intents. Tu vois ? Et donc, comme ça, à partir de ce moment-là, on peut se faire des tiers. De se dire, OK, toutes les entreprises dans l'industrie qui recrutent actuellement un profil commercial, ben en fait, ça, c'est ton tiers 1. Ça, c'est ton tiers 1. Et moi, je te conseille, après, c'est toi qui vois, de ne pas automatiser ta prospection dessus, mais plutôt d'y aller de manière ultra personnalisée parce que c'est une entreprise qui va te permettre d'avoir du quick win. Et le deuxième tiers, c'est de se dire, OK, parmi ces entreprises-là dans l'industrie, etc., on a un autre intent data qui est un peu moins poussé. Par exemple, le directeur commercial vient d'arriver dans l'entreprise. Tu vois ? Et là, pour le coup, ça peut être ton tiers 2. Et ensuite, le tiers 3, il n'y a pas forcément d'intent, mais ils sont quand même pertinents parce qu'ils sont dans ton ciblage. Donc, nous, on ne part pas forcément que d'un intent data. On part d'un bon ciblage, d'une bonne entreprise, l'entreprise idéale, pour derrière pouvoir enrichir sur des signaux d'affaires. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
C'est clairement, ça répond à ma question. Donc, du coup, notamment les boîtes où, pour le coup, il y a peut-être... C'est plus difficile d'identifier des intent data. Du coup, bon, elles ont une stratégie ou en tout cas, elles vont déjà avoir leur client, idée de leur client idéal, peut-être moins enrichi par les intent data, mais elles auront en tout cas une capacité à cibler plus juste. Voilà. Je te demande ça parce que beaucoup de gens je sais pas si tu vois beaucoup de contenu aujourd'hui, ils vont te dire voilà, il faut se concentrer principalement sur essayer d'aller chercher les intent data et d'avoir en fait cette logique là. Donc pour moi c'était important d'aller regarder ça.
T'as bien fait de poser la question, parce qu'à certains moments il y a une entreprise peut répondre à un besoin sur le moment, mais il n'aurait pas forcément eu un intent data du type recrutement ou du type le nouveau directeur qui vient d'arriver, etc. Donc est-ce qu'on se passe à côté de ça tout en sachant que ça peut être intéressant? Non, pour le coup, il faut vraiment partir de la bonne entreprise, l'entreprise idéale, avoir cette stratégie d'ABM, et derrière, pourquoi pas enrichir sur des intent data pour avoir ces stratégies de tiers, mais à tout moment, je veux dire, une entreprise qui a pas forcément, qui recrute pas forcément aujourd'hui peut également avoir un besoin dans ta solution.
Yes. Très clair. Tu as parlé en fait justement de tier 1, tier 2, tier 3. Ça, c'est quelque chose que je vois très peu. En fait, je suis toujours assez étonnée de le voir, c'est-à-dire d'avoir en fait des listes de prospection qui ne sont pas du tout segmentées, qui ne sont pas du tout priorisées plutôt. Il y a un débat sur le scoring. Scoring, oui ou non? Moi, je suis pro-scoring. Parce que même pour mes propres prospections, j'ai besoin de savoir là où je vais mettre le plus d'efforts, là où je vais du coup utiliser plus de canaux de prospection. Parce qu'on parle de multicanal, ok, mais je ne vais pas faire du multicanal justement sur un tier 3 où je ne suis pas forcément sûre que ces boîtes, aujourd'hui, je vais avoir effectivement un résultat. Parce que l'objectif, on va le rappeler, hein, c'est d'avoir un maximum de rendez-vous. Et donc, du coup, il y a des fois, il y a des comptes que je peux vouloir travailler plus sur la durée. Parce que, pour être plus précise pour les auditeurs, je vais te proposer une question derrière. Mais du coup, focalisons-nous là-dessus. Sur toi, t'es pro-scoring, pas scoring, et comment tu t'y prends?
Ouais, nous on est pro-scoring comme toi. On est pro-scoring. Toute façon, c'est ce que j'ai un peu de dire sur les tiers. L'idée, c'est d'arriver à scorer en fonction des intent data qui sont pertinents pour une activité en lien avec notre client. Donc, pour que ce soit un peu clair sur la partie intent data, intent data, donc signaux d'affaires qui permettent de détecter s'il y a un potentiel besoin envers la solution que tu vas proposer. Donc, il y a plusieurs types d'intent data. Il y a classiquement des levées de fonds, une boîte qui est en croissance, une boîte qui recrute actuellement, soit de manière massive, qui a un plan de recrutement de 200 recrutements par exemple, et tu as une solution qui permet de gérer ça, ou soit un profil en particulier, une boîte qui va recruter actuellement un chef de projet en SI. Si toi, tu as une ESN, en fait, tu peux également leur proposer de faire appel à de la presta, tu vois. Et sur une job board, c'est fou à quel point tu as un nombre d'informations qui est incroyable juste sur une job board. Sur la job board, tu sais quel type de profil ils recrutent, quel type de projet ils veulent mettre en place. Si tu scrutes vraiment la job board, derrière, tu arrives à avoir une personnalisation qui est incroyable sur ton appel, ok. Donc ça, c'est des exemples d'intent data. Des boîtes qui utilisent un outil en particulier, un CRM, un ERP, etc., qui viennent de migrer sur cet outil-là. Voilà, ça peut être un intent data. Donc, il y a beaucoup de signaux qui permettent de savoir si c'est le bon moment de faire ta prospection pour toi. Et donc, à partir du moment où on détecte des intents qui sont pertinents pour une activité, on peut scorer et on peut se mettre des priorités sur des leads en particulier. Donc, c'est en fonction des intents qu'on va arriver à scorer les leads, okay, et de se faire un tier 1, tier 2, tier 3.
Ok, et du coup, toi, tu scores, parce qu'il y a plusieurs méthodes de scoring. Toi, tu scores de cette manière-là, en fait, en divisant une liste du coup de prospection en 3 tiers. Donc, voilà, ensuite, après, il s'agit au sales manager ou au CEO de décider comment adresser ces différents tiers de manière pour avoir, en fait, le maximum de résultats. Ou est-ce que, typiquement, tu donnes des points par boîte à l'intérieur aussi également d'un tiers? Est-ce que tu vas aussi loin? C'est quoi tes méthodes de calcul, par exemple, sur le scoring?
Okay,
je dis ça parce que j'ai eu un débat, du coup, je vais le call out avec un ancien directeur commercial qui était à l'époque dans mon équipe et qui s'occupait de la partie account manager, qui a un profil extrêmement brillant. Aujourd'hui, il est country manager chez Payplug. Et on a toujours eu ce débat-là. Il me disait c'est bullshit cette histoire de scoring. Moi je mettais des points, tu vois, genre vraiment aux boîtes. Lui il disait en fait ça sert à rien, en fait. Genre en fait c'est du travail pour rien. Alors que moi je me dis, si je t'ai mis Danone, je sais pas, sur un sur un volume, allez, on va dire qu'on est sur 13 points. Idana, elle correspond à 13 points dans mon CRM. En fait, je veux que, quoi qu'il arrive, tu mettes tout ce qui est possible, inimaginable, pour Danone en place pour pouvoir les rencontrer ou rencontrer un maximum de personnes. Parce que ça, on en parlera, mais au niveau de l'enrichissement. Mais parfois, tu as beaucoup de commerciaux qui se contentent de dire « Ah, ok, ça, c'est dans mon tiers 1. J'ai Danone, je contacte deux personnes. Et ça y est, c'est fini, j'ai pas eu de retour. Allez, on passe à la suite. » Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, d'accord, pour moi, en fait, d'avoir cette logique de points, ça me permettait ensuite de mettre des modèles, de dire, en fait, quand on est sur ce niveau-là, voilà en fait ce que je veux que tu fasses, pas qu'en termes de canaux et je veux que tu les contactes et que dans ta tête c'est important. Je veux qu'en fait, bah, typiquement, si tu vois un événement, ils peuvent être présents, physique, hein, je parle. Par exemple, si tu vois une conférence où ils sont, bah, je veux en fait que tu sois en mesure de dire, bah, ok, Laetitia, j'ai besoin d'y aller, j'ai besoin qu'on débloque du budget pour ça, etc., etc. Donc voilà. Okay. J'ai besoin de savoir, tu vois, bullshit, pas bullshit, de vraiment d'aller super loin dans cette logique de scoring.
Intéressant là, ta manière de scorer un peu tes lignes, mais moi je pars vraiment du principe que c'est comment dire, lié à l'organisation interne et aux objectifs internes de l'entreprise. Donc ça veut dire, est-ce que okay, l'entreprise veut absolument avoir une logique de comment dire, de grand compte, et donc pour le coup là on va aller sur des entreprises du type Danone etc. et là on va se donner une note qui est beaucoup plus comment dire, beaucoup plus forte que pour des petites ETI ou des petites PME. Donc là, pour le coup, tu vois, ça dépend des objectifs de l'entreprise. Ou est-ce que l'objectif de l'entreprise, c'est d'avoir du quick-win et donc de se focaliser sur des entreprises avec, où il y aura un cycle de vente qui sera beaucoup plus raccourci. Donc, voilà. On ne va pas forcément dans le détail en disant, voilà, on donne une note à l'entreprise en question pour que tu puisses généralement prioriser ta prospection. Nous, on va le faire plutôt avec les interns, comme je l'ai dit, mais ça peut être intéressant dans une entreprise de pouvoir dire, bah, en fait, on se focalise sur des grands comptes et donc on lui met une note de 1 et on met en place toutes les actions pour les rencontrer, pour savoir quels besoins, etc., pour les suivre. Et donc là, pour le coup, je pourrais peut-être parler de surveillance de compte par la suite, parce qu'il y a la partie ciblage, mais il y a aussi la partie surveillance et donc nurturing, qui là peut être intéressant dans ce contexte-là. Mais ouais, non, on va pas mettre des notes dans nos ciblages, okay, en tout cas.
Et bah, en fait, t'as anticipé la deuxième question. J'avais dit, j'aimerais te poser quelque chose sur ça. C'est que effectivement, le quick win, c'est super bien à essayer d'aller chercher, mais il peut y avoir une tendance aujourd'hui à justement lâcher cette partie de, ok, il y a des comptes, que tu le veuilles ou non, ça sera dans ta cible, et surtout dans un contexte où on lit, il y a trop de bruit, il y a beaucoup de concurrence, etc. Je pense que tu peux pas te laisser le, enfin, tu peux pas non plus faire en sorte de justement pas être attentif à certains comptes que tu vas devoir plus travailler, pas les avoir en direct en mode genre avec ces boîtes-là, c'est ma boîte sur laquelle je vais travailler pour pouvoir prendre un rendez-vous, mais c'est des boîtes sur lesquelles je vais devoir effectivement surveiller ce qu'ils font. C'est potentiellement des gens qui peuvent rentrer très vite dans ma cible ou qui peuvent être dans ma cible mais encore un peu éloignés parce que pas encore éduqués, par exemple, pas éduqué sur mon produit, et ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples. Et donc, du coup, je vais mettre en place une stratégie avec le marketing plutôt qu'avec les sales, pour, en fait, se dire que je vais, du coup, travailler ces comptes sur la durée pour ensuite les réchauffer et les intégrer ensuite dans une ligne de prospection de sales. Et justement, c'est ça, en fait, parfois que je vois qu'il manque pas mal. Et donc, du coup, est-ce que c'est pas finalement deux listes de prospection? Une liste de prospection qui est vraiment orientée sales et une liste de prospection qui est plutôt orientée market.
Voilà. Ok, ouais, ultra intéressant. C'est vrai que quand tu es commercial dans une boîte, je prends le cas par exemple, j'étais avec une boîte qui s'appelle ADP, gros éditeur de logiciels et qui a beaucoup, beaucoup de commerciaux et en fait qui se répartissent les commerciaux en fonction des comptes, de chaque compte et qui doivent suivre au fur et à mesure pour à un moment donné détecter s'il y a un projet. Donc en fait, c'est pas une stratégie de quick win, c'est une stratégie de nurturing où on doit être présent au sein du compte et mener des actions ultra stratégiques. Donc ça, pour le coup, c'est une autre stratégie. Mais la manière d'aborder ces comptes-là, il faut être en veille continue sur qu'est-ce qu'ils font. Quels sont les nouveaux arrivants qui viennent d'arriver dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a un nouveau DRH? Est-ce qu'il y a des nouveaux RH qui viennent d'arriver dans l'entreprise? Et donc, du coup, leur envoyer un petit message de « Voilà, félicitations pour votre onboarding, j'ai pu échanger avec vos collègues, etc. » Sans pour autant avoir un CTA de dingue, en disant, voilà, est-ce qu'on se rend compte, etc., mais juste se faire identifier, ok, les mettre sur sa base de données. Donc, les nouveaux arrivants, c'est capital. Aujourd'hui, 20% des talents changent d'entreprise tous les ans, Ça, c'est une donnée de LinkedIn. Donc, il faut être en veille perpétuelle sur les nouveaux arrivants. Deux, sur les job offers. Typiquement, savoir si l'entreprise actuellement recrute à des postes stratégiques qui pourraient être intéressants envers la solution ou le produit que tu proposes. Et capitaliser dessus. OK, j'ai vu que vous recrutiez actuellement un nouveau DRH, un nouveau responsable SIRH. Bah, en fait, voilà, est-ce que vous êtes ouvert à pouvoir discuter sur des prestats, etc. Le recrutement, les nouveaux arrivants et l'actualité. Tu vois, il y a pas mal de sites internet aujourd'hui, le Mag IT, les Échos, etc. Tu as même sur Société Info une banque d'actualité qui en rapport avec les entreprises. Et à certains moments, tu peux réagir sur l'actualité. Ah bah, je sais que vous avez ouvert des nouveaux locaux en ce moment. Donc voilà, avoir des touches ultra personnalisées en fonction de l'actualité de la personne ou de l'entreprise, c'est la manière de pouvoir nurturer ses leads et de pouvoir avoir une relation, une connexion relationnelle qui est assez importante avec ses leads. Voilà.
Ok, nickel. Bon, en tout cas, merci pour ça. On va aller peut-être sur un sujet sur lequel je vois, oula, c'est assez compliqué généralement pour les boîtes de s'organiser, etc. C'est sur la partie enrichissement. On a notre client idéal, on a nos items data. Maintenant, bah, il va falloir enrichir tout ça. Ce que j'aimerais te demander, c'est quoi les conseils que tu donnerais pour faire une bonne base de données? Au-delà du fait, on a parlé de la partie, évidemment, identifier le bon client idéal, les personnes qu'on va contacter, mais pour faire une base qui ressemble à quelque chose qui est vraiment exploitable, de préférence dans son CRM, mais voilà, quelles sont les infos qu'on doit avoir absolument voilà.
Donc, ok. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis un ancien, je suis sales, je ne suis pas growth, c'est mon associé qui gère la partie growth, mais j'ai découvert la puissance du growth pour un sales. Donc, je suis tombé amoureux de ça en me disant, putain, la valeur qu'il y a là-dedans, c'est énorme. Aujourd'hui, il y a une qualité, enfin, il y a un volume de data qui, quand elle est bien traitée, bah, tu arrives à faire des choses incroyables dans ta prospection. Donc, comment aujourd'hui on fait pour faire une base de données? Il y a énormément d'outils. Je pense que globalement, on les connaît un peu tous. Voilà, du Drop Contact, du Better Contact, du Faro, du voilà. Mais comment on fait d'une étape 1 à l'étape 2, entre guillemets, pour arriver à faire sa prospection? 1, stratégie ABM. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de se poser les bonnes questions sur son ciblage, sur les bonnes entreprises en question, il faut absolument faire ce travail de prospection, ce travail de ciblage, pardon. La plupart des gens ne le font pas. Ils passent directement à l'étape 2 de « Ok, il me faut tous les directeurs commerciaux de ce type d'entreprise-là et je les attaque. » Non. 1, se poser les bonnes questions. Qui a le plus besoin de moi? À qui je réponds le plus à leurs problématiques? Vraiment se poser toutes ces questions-là, ça va nous permettre de découler sur un bon ciblage et donc une bonne base de données. 80% des résultats de la prospection se fait en amont, vraiment. Donc 1, poser les bonnes questions. 2, une fois qu'on s'est posé les bonnes questions et qu'on a défini vraiment un cahier des charges, des bonnes cibles et des bons intent data qu'on pourrait y ajouter, bah en fait, on va partir sur des outils de ciblage. Des outils de ciblage, donc on les connaît, Sales Navigator, mais pas que. Mais pas que, parce qu'à certains moments, Sales Navigator ne peut pas avoir un ciblage qui est ultra précis. Typiquement, je veux toutes les entreprises du type B2B qui font du SaaS. Bah en fait, ça va être compliqué de les trouver sur Sales Navigator parce qu'ils répertorient pas.
Compliqué.
Il ne répertorie pas en fonction des codes NAF. J'imagine que tu es souvent confronté à ce type de sujet.
Bah, en fait, tu te retrouves. En plus, surtout, en fait, c'est, moi, je suis très, très fan de SaaS Navigator, mais tu vois, tu as un problème où il y a des fois où la catégorisation des boîtes, elle n'est pas du tout la même. Tu vas retrouver un Doctolib, je sais pas du tout, je le connais pas par cœur, hein, mais tu vas trouver un Doctolib, je sais pas, qui va se mettre dans la santé. Tu vas trouver un Alan qui va se mettre justement sur logiciel, développement logiciel, etc. Donc t'as aucun moyen en fait de dire ok, je veux, bah par exemple, tu me donnes tous les SaaS qui existent en France. Enfin, c'est compliqué. Donc tu dois aller chercher d'autres informations pour pouvoir.
Exactement. LinkedIn, c'est un très très bel outil, mais pour le coup, sur la catégorisation des entreprises. On va fonctionner plutôt avec d'autres outils. Société Info, c'est un très bel outil qui permet d'avoir une bonne segmentation sur les entreprises. Et d'ailleurs, ils ont sorti une V2 là récemment et ils ont intégré l'IA, ultra pertinent. Faro aussi, c'est un très bel outil français qui ont scrappé globalement toutes les infos légales et qui les ont répertoriées sur des codes NAF, APE, mais également des segmentations du type cette entreprise fait que du B2B, cette entreprise est en mode SaaS, etc. Et donc, ça nous permet, à travers ces outils-là, d'avoir les bonnes entreprises. Okay ?
Ils sont un peu chers quand même, par contre. L'outil Pharo est assez cher, quoi, je trouve.
Ouais, ils sont un peu chers. Le premier abonnement, il est à 150 euros par mois. Mais,
après, la différence, c'est qu'ils font tout, je crois. Il y a pas mal de... Enfin, à la différence de ces navigateurs, je crois qu'il y a des éléments en plus, je pense, pour liés à la prospection que tu peux intégrer, etc. Du coup, ça merge en fait des outils. Mais c'est vrai qu'au départ, tu vas avoir plus tendance à aller sur ces navigateurs. Mais c'est pas mal que tu aies donné cette limite parce que ces navigateurs, en fait, au final, ça a l'air simple. C'est un peu comme beaucoup d'outils américains. Ça a l'air simple, mais en vrai, il faut quand même une expertise et une habitude et une pratique pour pouvoir en fait vraiment retirer tous les bénéfices. Autrement, tu te retrouves vite à enfin, je vois tellement de gens en fait dire j'ai pris 16 navs, mais je sais pas, je trouve pas les bonnes infos. Et en fait, c'est que ça te demande un peu de travail, quoi.
En fait, 16 navigateurs, c'est vraiment un très bel outil, mais pour identifier les bons interlocuteurs. Donc, je vais revenir là-dessus. Donc, vraiment, stratégie ABM et avoir les bons outils pour cibler les bonnes entreprises. Et donc, Société Info, Pharo, Crunchbase pour les startups. Après, tu as des annuaires. Tu peux également, tu vois, typiquement, on ne fait pas ce travail-là, mais à certains moments, ça peut être intéressant. En tout cas, nous, on le fait, de se dire, OK, c'est quoi l'annuaire des plus grands cabinets de conseil ESN en France? Et bien, en fait, tu vas être étonné de savoir que soit sur Google, mais également sur GPT, bon, là, je vais un peu plus loin, il peut recenser tous les cabinets de conseil, justement, avoir un annuaire à ce niveau-là pour identifier les bonnes entreprises. Donc, un, identifier les bonnes entreprises. Deux, une fois qu'on a ces entreprises-là, on a un certain nombre d'informations sur ces entreprises. Typiquement, le site Internet, le LinkedIn de l'entreprise, etc. Et derrière, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va coupler ça à LinkedIn Sales Navigator pour avoir les bons interlocuteurs. Donc, tu vois, on a un fichier CSV et on va l'intégrer à SalesNav pour identifier les bons interlocuteurs. Et donc, sur Sales Navigator, tu as toutes les entreprises que tu as sélectionnées. Et là, maintenant, tu vas choisir qui sont les interlocuteurs que tu vas choisir. Est-ce que c'est le DRH? Est-ce que c'est le CEO? Est-ce que c'est le directeur marketing, le directeur commerce? Donc, là, tu vas identifier les bons interlocuteurs et tu vas aller sur un parsinator. Tu peux aller sur le parsinator de Pharo. Tu tapes parsinator.pharo pour connaître le bon booléen. Booléen, je ne sais pas si c'est clair, s'il faut l'expliquer.
C'est très bien que pour moi, c'est très clair, mais c'est bien que tu le dises pour les gens qui sont peut-être débutants sur ce sujet.
Yes. OK. Un directeur commercial, si tu cherches tous les directeurs commerciaux, en fait, il y a plusieurs appellations au directeur commercial, dans des entreprises. Tu vas avoir directeur commercial, tu vas avoir head of sales, tu vas avoir directrice commerciale, tu vas avoir, un certain nombre de personas, entre guillemets, qui appartiennent au même, qui est le directeur commercial, mais tu as plusieurs appellations. Et donc, du coup, tu vas aller sur un site comme Parsinator qui recense vraiment tous les interlocuteurs qui correspondent au directeur commercial, pour l'exemple. OK ? Donc là, à partir de là, tu vas prendre tout ça et tu vas les mettre justement sur les intitulés de poste. Petit hack aussi sur LinkedIn, on pourrait se dire, OK, mais Anas, moi, j'ai juste à mettre dans l'intitulé de poste, pas forcément l'intitulé de poste, mais aller directement sur LinkedIn et dire directeur commercial. Mais quand c'est LinkedIn qui prend en compte la recherche, elle ne va pas être assez précise et parfois il va mettre de côté certains interlocuteurs. Il faut que tu le fasses toi, il faut que tu mettes les bons interlocuteurs avec le bon booléen. Donc en fait, il ne faut pas se dire que LinkedIn va te faire le boulot à ta place. Typiquement, à certains moments, il peut te faciliter la tâche, mais c'est un outil qui est très bien, mais il a certaines limites. Okay ? Donc typiquement, si tu mets, moi je veux tous les directeurs, tous les VP, etc. sur un des filtres qu'on a sur Sales Navigator, à certains moments, il va te prendre également des alternants, il va te prendre également des stagiaires. Donc il ne faut pas forcément faire confiance à 100%, et y aller les yeux fermés en faisant confiance à LinkedIn Sales Navigator. Il faut être vraiment proactif sur ta recherche. Et donc, le booléen permet de faire une alternative à ça et d'avoir vraiment les bons interlocuteurs. Parce que sur LinkedIn et sur SalesNav, je pense que la plupart des auditeurs qui vont écouter ont eu cette frustration-là, qui est de faire sa recherche. Et une fois qu'ils ont leur recherche, en fait, les deux premières pages, c'est nickel. C'est top, j'ai les bons interlocuteurs, mais dès que j'arrive à la 25e...
La troisième, quatrième, bref,
c'est n'importe quoi. Donc du coup, il faut quand même passer du temps à identifier les bonnes cibles et à se faire les bons booléens et à la main, aller un par un sur les profils pour se faire une bonne liste de prospection. Bon, c'était
ça,
un
c'est
peu
très important,
détaillé, mais...
Ça, c'est très important, je m'arrête là-dessus. Parce que comme on est dans le règne où tout le monde a envie de gagner du temps au maximum, penser notamment avec l'IA que, ok, l'IA permet de faire des choses assez incroyables en termes de, d'identification, de profil, de connaissance d'une boîte, de connaissance de justement ses pains, etc. Il commence à avoir des choses assez intéressantes là-dessus. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un travail manuel, limite artisan, qui te permet d'avoir la meilleure liste en fait enrichie. Et ça, c'est un peu enfin, je pense que j'ai envie de m'arrêter là-dessus parce que ok, si t'arrives à mettre tes bonnes formules booléennes, t'arrives à avoir du coup, je sais pas, 10-15 pages 16 navs qui sont hyper pertinentes. Ensuite, il y a pas de hack là-dessus. Il faut que t'ailles sur chacun des profils des personnes et regarder en fait pourquoi, parce que effectivement, t'as plein de choses qui parfois ok, cette personne-là, déjà, les gens ne mettent pas forcément toujours à jour leur LinkedIn. Très important quand même à avoir en tête. Il y a quand même des informations qui parfois sont structurantes. Typiquement, une personne qui vient, moi je parle par exemple sur le recrutement, je sais très bien qu'une directrice de recrutement, elle est arrivée au bout de 3 mois. Ça va être un compte que je vais surveiller, pour reprendre un peu ce que tu disais tout à l'heure, mais ce n'est pas un compte que je vais attaquer avec, du coup, les mêmes stratégies, etc. Pourquoi ? Parce que c'est une personne qui ne va pas prendre des décisions tout de suite. C'est logique, quand on arrive dans un poste, on va être plus dans une phase d'observation et pas dans une phase où on va implémenter de nouveaux outils. Donc, voilà. Donc ça, malheureusement, il n'y a pas de raccourci. Il faut aller regarder un à un. Je voulais aller là-dessus parce que tout le monde est en mode genre, mais comment je peux faire ça rapidement ? Mais non, en fait.
C'est ultra pertinent et en fait, j'ai souvent une phrase que je dis, c'est mieux vaut un grand effort de préparation qu'un petit effort. Non, mieux vaut un petit effort de préparation qu'un grand effort de réparation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'effort que tu vas mettre dans ta préparation et dans ton ciblage, bah derrière, en fait, les résultats qui vont en découler, ils vont être ultra pertinents. Alors que si tu ne mets pas de temps dans ton ciblage en amont, bah en fait, tu vas envoyer des emails à des personnes qui ne seront pas du tout concernées et tu vas détruire la réputation de ton entreprise. On en reçoit tous, hein. On en reçoit tous des emails ou des LinkedIn. Moi, je reçois même des messages LinkedIn en me disant qu'ils font du ciblage et de la base de données.
Ouais, c'est compliqué ça. C'est compliqué. Mais du coup, ouais, ça pose question. Je vais juste te poser aussi une autre question sur la partie toujours basonnée, liste enrichie. Aujourd'hui, c'est plus une question, peut-être que tu n'as pas la réponse, mais si vous avez forcément réfléchi là-dessus, on a un certain nombre d'outils qui te permettent d'enrichir vraiment ta base avec des éléments qui comptent. Alors évidemment, en fonction de ta boîte, tu auras des éléments qui seront intéressants. Parfois, la levée de fonds, c'est intéressant. Parfois, ce n'est pas intéressant. Parfois, le nombre d'années de tel type d'interlocuteur dans la boîte, c'est intéressant. Parfois, ce n'est pas intéressant. Mais par contre, il y a quand même des informations qui sont primordiales pour la prospection, qui sont l'email et le numéro de téléphone. Aujourd'hui, moi, ce qui m'a intéressé, c'est beaucoup plus sur le numéro de téléphone parce qu'on a évidemment des solutions comme Casper qui, on va dire que sur la France, en tout cas, c'est l'outil qui est le plus efficace, le plus pertinent en termes de numéro de téléphone. Par contre, aujourd'hui, on se retrouve avec pas mal de numéros de téléphone perso, direct, parce qu'on n'a pas cette information de savoir si c'est un numéro de téléphone pro ou perso. Alors, je ne vais pas parler des techniques de comment apaiser la situation quand on appelle sur un perso, mais on a une cible qui est de plus en plus éduquée et du coup qui cache de plus en plus leur information. Je voulais savoir si vous aviez constaté ce truc-là et du coup que ça va être un problème. Aussi également, on a eu un problème aujourd'hui sur l'email pour plein d'autres raisons qu'on a pas mal abordé dans ce podcast, etc. Mais on aura peut-être probablement un problème sur le cold call, pas sur l'efficacité du cold call qui, pour moi, reste un canal qui apporte des résultats, mais sur, mais sur la capacité de pouvoir le faire parce qu'on n'aura peut-être plus accès aux bonnes infos. Il faudra peut-être passer par d'autres canaux pour avoir les numéros de téléphone. Je ne sais pas si vous avez anticipé cette question.
Alors juste, avant de répondre à la question, je vais donner des outils qui peuvent être pertinents pour les auditeurs. Et qui peuvent justement servir pour faire de l'enrichissement d'emails et de numéros de téléphone. Drop Contact, voilà, vous le connaissez, c'est un super outil pour avoir les emails. Attention, Drop Contact, quand ils envoient l'enrichissement, vous avez deux catégorie d'email. Vous avez la catégorie d'email nominatif, où là, pour le coup, ils ont été testés et il y a 98, voire même 100% de chances que ce soit le bon. Et il y a les emails catch-all. Et catch-all, ça a été deviné en fonction du nom de l'entreprise, etc. Donc, il y a une chance sur deux que ce soit le bon. Attention, quand vous envoyez des emails en masse, ou en tout cas des emails automatisés sur des emails catch-all, ça peut altérer votre nom de domaine. Okay, donc ça il faut le savoir. Après, Drop Contact peut également donner les numéros de téléphone type standard. Okay, Drop Contact peut également les...
C'est pas fou. Je dis, pour moi, je trouve que c'est pas je l'utilise pas pour ça, en tout cas. Ça m'est arrivé d'utiliser Drop Contact pour la partie email, mais c'est vrai que sur le numéro de téléphone, à chaque fois, j'avais des non-réponses. Donc là où Casper, en fait, je trouve que c'est plus pertinent, quoi. Mais c'est mon expérience sur ma cible. Et encore une fois, c'est bien de mettre dans le contexte, c'est-à-dire qu'en fonction de la cible qu'on a, les outils sont pas pertinents de la même manière. C'est extrêmement important, on le dit pas souvent. C'est pour ça, parfois, on dit « je suis le meilleur outil », etc. Moi, par exemple, j'ai fait le choix. À NAS, par exemple, j'utilise FendInMail. Pourquoi ? Parce que FendInMail me donne que des mails qui sont 100% sûrs. Et j'ai pas envie de prendre le risque, parce que moi, je fais pas d'automatisation, d'aller chercher des mails, etc., etc. Je vais essayer de trouver ces mails-là qui me manquent d'une autre manière, soit en essayant de convaincre la personne sur LinkedIn que je suis pas quelqu'un de chiant qui va la harceler. Je suis quelqu'un qui a quelque chose d'intéressant à lui donner. Est-ce qu'elle veut bien me filer son email? Donc, je vais peut-être trouver d'autres astuces. Mais pour moi, c'est important parce que tu vois aussi, je suis sur aussi également des marchés internationaux. Et typiquement, t'as des outils Apollo est meilleur, tu vois, par exemple, sur certains pays que Sales Navigator ou que même Casper sur certains Lusha, pareil. Parfois, c'est meilleur pour un pays, moins bien pour la. Enfin, pour moi, Casper, je trouve qu'en France, c'est extraordinaire, tu vois. Ouais. C'est un des meilleurs outils. Donc voilà. Je voulais juste préciser ça parce que parfois, on a tendance à dire, il y a un outil et c'est la solution magique. C'est pas toujours la solution magique en fonction de notre cible, quoi.
Ouais, c'est clair. Et pour le coup, là, pour l'exemple, c'est quoi ta cible où t'as du mal à avoir les numéros de téléphone
Bah là, en fait, pour moi, c'est un constat général. Okay. Là, je me rends compte que des gens, parce que je fais quand même de la prospection depuis longtemps. Donc, j'arrive quand même à me rendre compte qu'il y a un moment donné, il y avait de l'info sur cette personne-là, de manière sur Casper. Aujourd'hui, je sais pas si tu vois, maintenant, il n'y a pas d'email, c'est pas l'email caché, c'est le numéro de téléphone, pas de numéro de téléphone. Alors que tu aurais vu. Comment ?
Je le dirai après, mais en gros, il s'est opt-out de la base de données de Casper. Et quelqu'un a dû lui dire, et donc du coup, il a fait la démarche de ne plus être sur la base.
Exactement. Et dans un contexte où tout le monde utilise, dans le cadre du cold call, j'ai eu votre numéro de téléphone sur Casper, évidemment, la personne, immédiatement après, pas tous, mais on va dire une personne sur trois, va aller sur Casper et va retirer son numéro de téléphone. Ce qui va forcément faire en sorte qu'on a moins d'informations. Je ne sais pas du coup si. C'est pour ça, c'est juste pour te dire, est-ce que, vu que c'est quand même votre métier sur cette partie d'enrichissement, de création de listes, etc., il y a quand même un enjeu où on a une population, une cible qui est de plus en plus éduquée, une cible qui n'a plus envie d'être contactée de manière sauvage, mais même tout court pour certains. Est-ce qu'il y a un risque sur la data? Est-ce que vous lisez des choses là-dessus? Comment vous comptez le contourner? Qu'est-ce que vous pourrez donner comme conseil aux personnes dont c'est le métier de faire de la prospection et dont c'est le métier d'avoir de l'information?
Yes. Voilà. Alors, on a cité pas mal d'outils. Casper, pour le coup, c'est l'outil génial pour avoir les numéros de téléphone directs, donc les 0607, qui sont, attention, souvent des numéros perso. Okay, donc, il faut savoir répondre à l'objection de... comment vous avez eu mon numéro, qui sont souvent des numéros perso, parfois des numéros pro également. Mais Casper, aujourd'hui, est un outil français et qui a le plus de data. En tout cas, on les a testés entre Casper, Lusha, Datagma. Mais Casper a le plus de data sur des numéros de téléphone type 0607. Je ne l'utilise pas pour les emails parce que ce n'est pas accurate. On a d'autres... Donc, toi, tu as FindEmail... Il y a d'autres outils, Drop Contact, il y a Better Contact. Better Contact, c'est un outil qui te permet d'enrichir en cascade sur différents outils comme Drop Contact, mais également comme d'autres outils. Better Contact, c'est vraiment top. Il y a FindEmail, il y a Hunter, il y a même Lemlist, en fait, aujourd'hui, si vous utilisez Lemlist, qui permet d'enrichir directement les emails, de les vérifier avant de shooter votre séquence. Donc ça, pour le coup, il y a quand même pas mal de solutions à ce niveau-là. Sur les numéros de téléphone, soit vous utilisez du standard avec le numéro standard du siège, donc avec du droit de contact, mais ouais, à certains moments, droit de contact, il t'envoie vers une agence à Bubblehead au fond de la France.
C'est et ça,
tu dis, mais pourquoi ? Enfin, je veux dire, c'est pas du tout le bon numéro de téléphone. Donc voilà, il faut y aller un peu à la main ou utiliser d'autres outils. Mais après, sur les numéros 0607, mon point quand même, c'était de quand même tester sur le standard. Parce qu'à certains moments, les gens se disent « Ah mais ouais, ça ne marche pas sur le standard, moi il me faut que du 06, il me faut que du 07 et j'appelle les bonnes personnes. » Ouais, moi je fais de la prospection, quand on a une bonne stratégie et qu'on a le standard au bout du ligne, au bout du fil, sur certains personas, on peut les avoir directement en ligne. Okay. Donc, et on évite de passer par le truc de « Comment vous avez mon numéro ?» Donc continuez quand même sur le standard, on n'est pas à l'abri de ces surprises. Et le deuxième truc, c'est enrichir sur du Casper pour les numéros français. Il y a un autre outil qui s'appelle, là on est en train de le tester, qui s'appelle Find Enrich. Et en gros, c'est un outil qui permet d'enrichir en cascade également sur du Casper, du Lusha, du Datagma. Donc comme ça, ça permet d'avoir beaucoup plus de données.
Ça, c'est stylé, ça.
Ouais, beaucoup plus de données sur le 06. Après, sur ta question de, ouais, vu qu'on dit que c'est du Casper, les gens vont se désabonner, ils sont beaucoup plus au fait de tout ça. Je ne pense pas que ce soit un réel problème, entre guillemets, aujourd'hui. Ça va l'être pendant un moment, mais il y aura d'autres outils ou d'autres choses qui nous permettront d'avoir les données de la personne. Il y a une autre boîte qui s'appelle Nomination. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette boîte-là.
Si, mais ils sont assez à l'ancienne. Enfin, ils sont pas à l'ancienne, mais ils sont assez. Ça fait longtemps en fait qu'ils existent, Nomination, etc. Et eux, je crois ils sont très bien pour la France, je crois, mais. J'ai jamais pris Nomination parce qu'ils étaient chers.
Ah, ils sont chers.
Donc voilà, ils sont assez. Enfin, je pense que c'est très bien pour des boîtes qui ont des grosses équipes commerciales, qui ont un budget assez conséquent sur la partie sales. Pour des boîtes un peu plus. Parce qu'aussi, il y a ça aussi pour les outils. Moi, j'aime bien aussi également, tu vois, quand je dis des outils, c'est-à-dire, OK, une boîte qui est au tout début, qui a 2-3 sales, c'est quoi les outils que tu dois avoir? Quand tu as 10 sales, c'est quoi les outils que tu dois avoir? Quand tu en as 20, quand tu en as 30, quand tu en as 100, c'est pas les mêmes, tu peux pas te permettre, t'as pas les mêmes moyens, quoi.
Mmh. Ouais, c'est clair. Mais ouais, c'est vrai que Nomination est chère et s'adresse plutôt aux grands comptes. Et eux, pour le coup, ils ont les données professionnelles quand je dis les 06, 07, c'est pro, des boîtes.
C'est que pro, ouais. Ouais.
Donc pour le coup, ouais, c'est un problème. Ils ont pallié à ce problème-là, on va dire.
Ok, très cool. J'aimerais conclure cet épisode sur, forcément, on doit en parler, sur l'IA. Aujourd'hui, en tout cas, moi, ma croyance en fait, sur la partie sales, c'est que le plus important dans les prochains mois, je préfère dire mois, pas année, parce qu'aujourd'hui, ça va tellement vite que vaut mieux parler de mois, même peut-être de quarter. Mais en tout cas, pour le prochain quarter 2024, on va dire que ce que j'ai l'impression, c'est que le plus important, ça sera, ça devient en fait la donnée, la data que tu as. En fait, en réalité, ce que j'ai l'impression, c'est que les outils d'automation, aujourd'hui, on voit bien qu'on est arrivé à la fin, qu'on a du coup les annonces qui disent que voilà, toutes les boîtes qui enverront, je crois que c'est plus de 5 000 mails, mais tout confondu, hein, pour toute la boîte, il me semble, par jour, je crois. Voilà, seront bloqués ou en tout cas, voilà. Et donc, ça met en danger toute une boîte. Donc, on voit bien qu'il y a un sujet là-dessus. Pareil, les tentatives de faire du cold call avec de l'IA qui fait le message, etc. Bon, ça, on voit bien qu'avec le contexte actuel, bon, on va pas donner très cher de leur peau à ce genre de nouveau projet. Du coup, il va falloir en fait faire du personnalisé, mettre vraiment de temps là-dessus. Et du coup, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est cette partie de data. L'IA aujourd'hui, c'est quoi les moves que tu vois qui t'aident toi aujourd'hui déjà, parce que je sais que tu fais déjà tu utilises déjà GPT pour ça. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire beaucoup mieux que ce qu'on fait aujourd'hui?
Okay.
En termes de, est-ce que ça peut nous faire nos listes directement? Est-ce que ça peut, j'en sais rien, tu vois? Est-ce que ça peut nous donner des informations d'Inden Data encore meilleures que des outils en fait, qu'on peut avoir classiques, parce qu'il y a plein d'Inden Data que tu as sur Google.
Ouais.
Tu n'as pas sur Sales Navigator, Faro, etc. Donc, voilà.
Ouais. Ok, ultra intéressant. Ouais, l'IA, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas sous-estimé, notamment sur la partie data. C'est pour ça qu'on le greffe comment dire, à nos prestats aujourd'hui. Donc, sur la partie ciblage, le fait de se poser les bonnes questions, etc. On peut également faire une étude de cible avec l'IA. De se dire, en fait, en fonction de les services, des produits qu'on va pouvoir délivrer, nous, entreprises, d'après toi, quelles sont les entreprises qui seraient pertinentes d'aller cibler dans un contexte de prospection pour avoir du quick win? Et ça, pour le coup, on peut avoir des idées avec notre cerveau, avec nos expériences et avec comment dire, les clients qu'on a, mais on peut également avoir comment dire, un conseil extérieur de la part de l'IA pour se dire, ah ouais, c'est vrai, putain, j'y avais pas pensé. Ouais, c'est vrai que comment dire, ce type d'entreprise-là est ultra pertinent pour moi. Et avec cette intent-là, j'y avais pas pensé. Et ouais, c'est vrai que ça peut être pertinent de le tester. Donc du coup, sur la partie ciblage, on peut utiliser l'IA pour connaître comment dire, les bonnes segmentations et les bonnes cibles. Okay? Et on peut même également le pousser un peu pour avoir le bon discours et savoir quels sont comment dire, les besoins détectés de ces cibles-là. Et ensuite, sur la partie base de données, alors avant, l'IA ne permettait pas de scraper, donc d'aspirer les données sur le web, parce qu'il n'était pas branché au web et parce que pour des raisons RGPD. Alors aujourd'hui, on peut le faire. On peut également avoir, donc tout à l'heure, je te parlais des numéros de téléphone type standard. Donc je peux lui dire, on peut dire à l'IA, on a une liste d'entreprises, est-ce que tu peux nous donner tous les numéros de téléphone type standard que tu auras vu sur Internet, sur Google, etc. Et tu peux nous mettre un listing, pardon. Et donc, on l'a fait, on l'a testé, et c'est beaucoup mieux en termes de qualité de données. Elle est beaucoup mieux que du drop contact ou d'autres outils aujourd'hui. Donc, c'est un truc de dingue. Sur la data, l'IA aujourd'hui va révolutionner le truc. Et après, sur le cleaning, donc une fois qu'on a la liste, bah, on peut également vérifier la donnée avec sur Google Sheet ou directement sur GPT en disant, OK, par exemple, j'ai une liste d'entreprises, je veux savoir, je vais être sûr que ces entreprises-là sont dans ce secteur d'activité ou que ces entreprises-là, je sais pas, ouais, elles sont dans le secteur d'activité du management, du consulting. Et ben, en fait, l'IA, à travers le scraping des sites internet, etc., peut te dire la catégorie de l'entreprise en question pour que derrière tu puisses personnaliser ta prospection. Donc là, je t'ai donné un cas concret sur comment dire, le secteur d'activité, mais tu peux le faire pour d'autres idées. Et également, sur la partie icebreaker, une fois que tu as le bon interlocuteur, la bonne entreprise, etc., tu as une description LinkedIn de l'interlocuteur, tu l'as grâce à des outils, tu peux également lui demander à l'IA d'avoir un icebreaker personnalisé en fonction de la personne. Donc ça, voilà,
Ça donne des bons résultats ou ça fait un peu des trucs un peu bizarroïdes comme pour le cold email? Ça donne des bons résultats, ça?
ça dépend du
Sur
prompt.
la partie icebreaker?
Ouais, ça dépend du prompt que tu
Ok,
vas avoir.
justement, je voulais un truc. Vous avez du coup, chez Linbanda, j'imagine, commencé à travailler sur des prompts que vous utilisez pour pouvoir vous aider là-dessus?
Yes.
Ok.
Yes.
Donc, c'est des prompts spécifiques que
Ouais.
tu ne diras pas forcément le nom, enfin, que tu ne partageras pas, ce qui est normal, ce qui est logique. Mais du coup, au moins, c'est intéressant de se dire que pour les auditeurs qui ont envie de tester sur un des aspects que tu as dit, soit sur le clean, soit sur l'icebreaker, soit sur le fait de pouvoir identifier, valider qu'on a le bon client idéal, les pains, etc., de pouvoir commencer à travailler sur des prompts, voilà, et de les faire travailler, les voir en fonction des résultats, etc. Ça peut être intéressant.
Exactement.
OK, autrement, de faire appel à LeadPanda sur le sujet. Du coup, est-ce que tu as un dernier conseil à donner pour l'année prochaine, pour le prochain quarter,
Ouais.
aux gens qui vont commencer à s'attaquer à soit enrichir leur liste, soit effectivement à faire de nouvelles listes parce que ils sont en plein go-to-market.
En fait, je pars vraiment du principe qu'il faut mettre du temps sur les actions qui vont rapporter de l'argent et rapporter des résultats derrière. Et si tu mets pas de temps sur du ciblage et de la base de données, bah en fait, comment tu peux espérer avoir des bons rendez-vous derrière? Je te prends un cas concret. J'ai bossé pour une boîte, un cabinet de conseil, qui était intégrateur d'un outil en particulier. Il s'agit pas d'aller voir toutes les entreprises. On est juste allé voir les entreprises qui ont cet outil en interne. Et donc, du coup, j'ai ciblé toutes ces entreprises-là et je les ai appelées. Et j'ai eu un rendez-vous avec le directeur data de Carrefour. Donc c'est un grand compte pour le coup, mais le message était tellement personnalisé et comment dire, la connaissance du contexte en interne était tellement percutant que derrière le mec il a été obligé, enfin pas obligé, il s'est dit putain, j'ai jamais reçu un message de prospection de ce type-là. Et donc il a pris rendez-vous. Donc aujourd'hui la prospection elle est tellement dure entre guillemets. Et y a beaucoup de personnes qui disent « Tiens, je vais envoyer des messages automatisés, ça a marché. » Non. En fait, le ciblage permet d'avoir une personnalisation dans ta prospection et permet derrière d'avoir des résultats. Donc, c'est vraiment une équation qui fonctionne.
Personnalisation ou pertinence, mais du coup, d'avoir les bonnes informations qui font qu'on a l'impression de connaître vraiment l'interlocuteur.
C'est ça.
En tout cas, je trouve ça intéressant ce que tu dis. Moi, je le dis et d'une autre manière que toi. C'est... toutes les personnes qui font du sales, oubliez l'année prochaine de faire de l'automation, oubliez d'essayer d'aller trouver des raccourcis. Et je pense que cet épisode-là, pour moi, c'était important qu'on le fasse parce que c'est la base et je pense que c'est ce qui va permettre en fait aux gens de tirer leur épingle du jeu l'année prochaine parce qu'il nous faudra toujours des rendez-vous.
Yes.
Et même au-delà de ça, c'est pareil, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il y a beaucoup de contenu, énormément de contenu qui est fait, on commence à être débordé, on ne sait plus quoi suivre. Bah, je pense que peut-être, j'en sais rien, peut-être qu'on va commencer à avoir des logiques de contenu bien ciblé, qu'on enverra aux bonnes personnes, etc. Et ben, du coup, il y aura toujours cette dimension de ciblage, à qui on envoie tel contenu, pour qui est tel contenu, etc. Et du coup, voilà. Donc, je pense que c'est un peu, ça va être le nerf de la guerre. En tout cas, merci beaucoup, Anas, pour tes partages. Et du coup, voilà, vous pouvez le contacter sur LinkedIn. Je mettrai toutes les informations dans la description. Et bah écoute, à très vite.
Merci, Laetitia. Salut.
C'est déjà la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous repartez avec assez de matériel pour exploser vos ventes. Si vous n'en avez pas eu encore assez, abonnez-vous à Vendu dès maintenant sur votre appli de podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi vous rendre sur mon site web www.vendu.fr où vous trouverez plus de contenu. Par exemple, tous les 15 jours, je décortique une vente que j'ai conclue ou ratée de A à Z pour partager mes meilleures stratégies. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.